Bonsoir à tous, vous écoutez DU, unité radiophonique mobile. Nous sommes le 25 avril, il est 22h41, au deuxième étage du 29 rue de l'Autonomie, et c'est le chemin de table. Apes and Castles, dans l'exposition Speakeasies, une exposition en quatre occurrences qui réunit, arrêtez-moi si je me trompe, Jaap Verhoeven, Corentin Canson, Damien Le Dévédec, Stings Total, qui sont Nicolas Chardon et Emmanuel Van Der Mullen. Et c'est tout. Autour de la table, dans l'ordre de gauche à droite, Jaap Verhoeven, Hilde Overbury, Benjamin Husson, Emmanuel Van Der Mullen, Camilla Oliveira Verkloff, Nicolas Chardon, Benjamin Collet, Damien Le Dévédec et Maëlle Pescon, et Romain Poussin et Carl Perrineau. Vous avez chacun amené un objet. Et je pense qu'on peut directement commencer par le premier objet qui va être par exemple celui-là. Et je vais demander à de décrire cet objet.
C'est la maman de Enzo Mari. Enzo Mari, c'est un designer italien. Ouais.
Alors, à quoi elle ressemble la maman?
Pour le creuset, oui, voilà. Voilà, cette jaune, utilisée. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ces casseroles.
Ah, casseroles.
Casseroles, voilà, oui.
Quelqu'un veut rajouter des choses là-dessus?
On n'a pas parlé de sa couleur.
Oui, il y aura des choses.
C'est quand même assez beau, ce jaune, entre le jaune et l'orange, indéterminé.
Oui. Et ça a quel genre de forme? Casserole, c'est un peu générique, mais pour...
C'est plus une marmite, non?
Oui, je trouve aussi. C'est une cocotte.
Le très important, c'est la maman.
Et pourquoi c'est la maman?
Je sais que c'est un peu un œuf, et puis voilà, c'est la maman qui cuisinait. Je ne sais pas de quelle année.
C'est les années 70, c'est l'année, non
60,
60 70.
Alors, il n'y avait pas encore des hommes qui cuisinaient. Hein,
C'est genré, quoi.
Voilà.
C'est très genré.
Alors, Benjamin, c'est toi qui as amené ça.
Non, je c'est un objet qui fait beaucoup partie de mon travail actuel. Enfin, ça fait partie. Le creuset fait beaucoup partie de mon travail actuel. Et vous pouvez aussi me dire pourquoi pourquoi j'y trouve autant de données sculpturales, peut-être, et en tout cas de choses qui sont de référence qui accompagnent mon travail en ce moment, en tout cas.
Donc c'est un creuset.
Le creuset, ouais. Le creuset et édition Mama par Enzo Mari.
C'est signé. C'est
une marmite. Ouais. Quelques designers ont travaillé avec le creuset à travers les âges et du coup, celle-ci est une d'Enzo Mari.
Quelle taille ça fait ?
Celle-ci, c'est un diamètre 21. Et ils sont reconnaissables à l'intérieur, du coup, ça va du 19 au 30 et quelques. Format familial, format plus personnel.
Là, c'est un jeune couple. Quand même. Ouais.
Exactement, là, c'est plutôt jeune couple, le format. Mm-hmm.
Mais c'est tu l'utilises encore ?
Je l'utilise, oui, je la dessine, je la fais dessiner.
Non, mais tu cuisines ?
Pas avec. Oui, je ça me, j'utilise le creuset pour cuisiner, mais.
Tu es en jeune couple ?
En tout cas, avec. Pour que jeune couple.
Assume le fait que tu. Collectionne des casseroles.
Voilà, je collectionne et le creuset. Et les poils godins. Je collectionne le creuset, les casseroles le creuset et les poils godins. Voilà.
C'est pas une honte.
Non, je. Bonjour, je suis Benjamin Husson, je collectionne les marmites, le creuset.
Mais moi, je cuisine pas beaucoup, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans la cuisine, je crois, un grand plaisir de la cuisine, c'est le bruit qu'on fait quand on fait la cuisine. Et là, on a des choses comme ça. Je pense que c'est quand même important.
On sent déjà l'odeur d'un bon repas.
T'as un plat pour chaque casserole, que tu choisis en fonction de la forme.
Potentiellement, parce que c'est vrai qu'il y a toutes les marmites qui sont plutôt les coquelets, etc., pour vraiment... la taille d'une poule, pour vraiment le poser à l'intérieur. On construit autour du poulet. Celle-ci, en tout cas, pour des petits ragoûts, c'est très bien. Ouais. Une bonne carbonade une bonne carbonade flamande dans le creuset, je crois que c'est...
Non, c'est plus en fonction de la forme que de la couleur que tu
voilà. cuisines. Voilà, plutôt. C'est-à-dire que c'est plutôt ce qu'elle englobe.
C'est céramique à l'intérieur.
Oui, c'est du métal émaillé, la fonte émaillée, voilà exactement.
Alors c'est
pas superposable, alors c'est voilà, ça vient se occuper votre cuisine.
Et pourquoi tu, enfin, dans quelles circonstances tu préconises l'usage de la mama? C'est-à-dire, on
ne
peut pas tout préparer avec. Qu'est-ce que tu fais ? Quel grand moment t'as vécu
avec ? J'ai découvert une recette assez récemment. J'ai découvert une recette assez récemment d'une que je vais expérimenter bientôt d'une dinde dans laquelle est fourré un poulet, dans laquelle est fourré un pigeon, dans laquelle est fourré une caille et genre dans laquelle est fourré un œuf comme ça. Et il y a quelque chose d'assez. Enfin voilà, c'est un espèce de. Il y a un côté poupée russe, assez chouette comme ça dans le fait de la dernière phase d'ouverture comme ça avec tous ces éléments fourrés les uns aux autres. En tout cas, c'est du cuisinisme.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a d'autres œufs qui arrivent là bientôt, mais je vais rebondir sur Emmanuel qui a un sens de la radio aiguisé et qui a directement fait sonner la le creuset.
Bah écoute, je te remercie.
Maman.
Et est-ce que tu peux nous montrer l'objet que tu as ramené ? Pas en parler, juste le montrer lequel c'est, puis on va confier à Camilla le soin de le...
Mais il est dans la pièce à côté, au-dessus de la cheminée.
Ah. Et alors,
Camilla n'est pas là. Camilla.
Je pense qu'elle a peut-être... Benjamin, tu peux raconter, tu l'as manipulé. À quoi ressemble cet objet ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est un peu de la cuisine aussi.
Ah, c'est un peu de la cuisine aussi. L'adjectif qui était tout à l'heure, le un peu talisman comme ça, mais c'est une peinture d'Emmanuel, Il faudrait que je l'ai en visuel pour pouvoir peut-être la décrire plus facilement. Et
fait quelle taille déjà?
Il fait à peu près 90 par 60 cm. À peu près. C'est une huile sur toile. Et cette toile s'appelle. Je voudrais pas écorcher.
Utroque tempore.
Voilà, utroque tempore.
Utroque. Ce qui signifie
par tout temps ou de tout temps.
Alors, qu'est-ce qu'est. Que figure-t-elle cette toile de 60 par 90 ? Benjamin, tu veux continuer la description ou tu sers d'abord?
Ouais, pardon.
Est-ce que quelqu'un a regardé la toile?
Hein?
Là, c'est la preuve que dans les expositions, personne ne regarde les peintures.
Bah, c'est une toile.
La question, c'est plutôt est-ce qu'on l'a regardé ou est-ce qu'on l'a vu? Mm-hmm. Comment, à ce moment-là, on l'a vu? Moi, je prends la parole.
Vas-y.
Comme ça, mais. Il me semble qu'il y a plein de choses à y voir qui dépassent sa description simplement factuelle ou formelle. Ce qu'on y voit, c'est un rectangle de 90 cm par 60 et qui figure en son centre à peu près une sorte de carré, une forme plus ou moins carrée. Le fond est brossé en couleur gris foncé. C'est plutôt plus qu'une couleur des gestes de peinture qui vont horizontalement. Et au centre est plaqué sur cette sorte de fond, donc une figure carrée, délimitée dans un format carré qui doit faire 30 cm par 30, quelque peu plus. Qui est brossé très différemment dans un gris plus clair avec un pinceau plus petit que celui qui a servi à faire le fond et qui organise une répartition de la couleur de ce gris plus clair de manière très, très serrée et en même temps quand même assez gestuelle. Donc c'est le paradoxe d'ailleurs de cette peinture qui est à la fois assez lâchée. C'est pas une peinture expressionniste, mais c'est une peinture qui manifeste son état d'être appliqué avec un pinceau. Et en même temps, elle est parfaitement géométrique aussi, si on s'en tient aux limites du cadre lui-même du tableau, mais également aux limites qui sont faites certainement avec un scotch, de masquage, non, même des artistes, qui sont faites donc à main levée, mais suivant un dessin qui doit être tracé à la surface et qui délimite cette figure carrée centrale et peinte donc en gris plus clair.
Oui.
En même temps, là, quand on dit ça, on s'approche d'une description assez, assez précise de ce qu'on a sous les yeux.
C'est amusant parce que tu disais qu'il y avait, que ça dépassait largement la description technique, et tu viens de faire une description technique super précise.
Ouais, mais justement, quand on dit ça, je suis pas sûr qu'on circonscrive absolument la peinture. Enfin, plutôt, je suis certain qu'on ne dit pas grand-chose. Parce que le malheur d'une peinture à la radio, c'est qu'on ne la voit pas. Mais à la limite, on la verrait à la télé, on ne la verrait pas plus. C'est qu'une peinture, c'est toujours une expérience. Là, quand je parle de ça, je ne parle pas de ce qu'on voit sur la tranche du tableau, qui fait que c'est certainement la raison pour laquelle Emmanuel prétend que c'est l'objet qu'il a apporté. C'est-à-dire que c'est quand même un objet qui est accroché ici à Epsom Castles sur le conduit d'une cheminée dans une des deux salles d'exposition.
À Bruxelles, je me rends compte, j'ai même pas dit qu'on était à Bruxelles.
Ouais, à Bruxelles. Et enfin, voilà, c'est-à-dire que du coup, on peut le décrire, on peut décrire comment c'est fait, l'effet que ça fait, que ça produit à notre regard, mais pour autant, on vit pas l'expérience de l'avoir. On peut essayer de l'approcher
en même temps, je trouve très jouissif l'idée de prendre le temps de radiophonique de l'expérience d'une peinture. Je trouve que ce que tu racontes, par exemple, aussi abstrait que ça puisse être pour une oreille, ça a toute la qualité justement de, que la télévision n'a pas.
Et d'ailleurs, on pourrait.
Ça fait appel à des sens que la télévision a tendance à conclure plus vite que l'oreille.
Mmh. On pourrait aussi parler de l'expérience d'une marmite le creuset, irréductible à la radio.
Ah, le son est différent de la peinture. Oui, de
Manuel, on pourrait essayer de cogner la peinture contre le mur, je ne sais pas si ça serait. Mmh.
Justement, c'est peut-être la différence entre ces types d'objets-là.
Ouais.
Enfin.
Les propriétés acoustiques de la peinture ne sont pas aussi...
Non, pas, enfin, quand on tape sur une toile qui vient d'être tendue, ça fait un bruit formidable. Hein, on peut faire de la musique avec. Mais,
c'est un tambour.
Mais par contre, c'est vrai qu'il y a dans la... c'est ce que je pense dans l'objet tableau, enfin, l'objet de la peinture qui est souvent le tableau, une forme de spécificité qui fait qu'on ne peut pas autant que malgré toutes les qualités de designer d'Enzo Marini et les qualités de producteur et de diffuseur de la marque Le Creuset, je ne pense pas qu'on puisse faire l'équivalence entre la peinture d'Emmanuel ici exposée et cette... casserole ou je sais pas comment
dire,
référence culturelle.
Parler de la qualité de la laque à la Fontaine-Maillet est quand même relativement, c'est quand même une très belle laque. Sa boîte industrielle, c'est notable.
Bah, ce qui est notable surtout, selon moi, c'est aussi, et c'est ça qui plaît à tout le monde, surtout quand on voit ces vieux faitous, c'est la qualité de l'usage.
Voilà.
Et finalement, la qualité de l'usage d'une peinture, c'est celle d'un objet qui est fait pour être regardé. Ce qui n'est pas le cas du faitout, le creuset, qui est fait pour être utilisé, pour faire le poulet dans la caille, etc. Finalement, l'usage, c'est celui de nos yeux qui vont... aller se confronter à ce qui se passe dans la peinture d'Emmanuel.
Mais c'est un peu.
Ouais, voilà, j'ai demandé Emmanuel pourquoi le choix de cet objet-là.
J'étais très embarrassé quand Maëla m'a parlé de cette émission où on devait amener un objet, parce que je pourrais dire de façon générale que j'aime pas les objets et je trouve que les objets ça va rien. Enfin, et même si j'en, comme tout le monde, j'en accumule pour diverses raisons pas très intéressantes.
Par exemple, tu trouves une cigarette alors qu'il...
Voilà, mais encore qu'elle va se consumer, donc on peut considérer qu'elle prendra pas vraiment de place en fin de compte. Et cette question de l'objet est intéressante parce que je crois que comme Nicolas Chardon, on se réfère tous les deux. En tout cas, ouais, dans notre travail, dans notre recherche, justement, au monde sans objet de Malevitch, quoi. Et du coup, c'est Nicolas le premier qui a réagi en disant, ben moi, j'amène mon tableau et puis c'est tout. Et j'ai fait la même chose parce que je voyais pas quel objet justement j'aurais pu amener. Et je crois que Nicolas a bien nommé la qualité du tableau, qui est un objet, mais qui est pas un objet en plus. Je crois que c'est important en fait, parce que c'est plus effectivement le support que d'une expérience que quelque chose en fait qui prendrait de la place ou qui aurait une forme. Ouais. Et je pense que finalement, si le jeu auquel on se prête là me semble intéressant, c'est que justement évoquer ces questions-là radiophoniquement. instaure une sorte de perte quand même, mm-hmm. et qui m'intéresse aussi, y compris sur le plan visuel, dans mon travail de peinture, je dirais ça comme ça.
Mm-hmm. Est-ce qu'on passerait du coup, pour continuer le tour, à ton objet, Nicolas ?
Que je décrive mon objet ?
Alors que tu dises déjà ce que c'est, et c'est quelqu'un d'autre qui se chargera de décrire pour toi.
Mon objet, c'est donc un autre tableau,
okay.
qui se trouve accroché dans l'exposition et qui fait un peu dans l'accrochage le pendant au tableau d'Emmanuel, puisqu'il se situe accroché au même sur un autre conduit de cheminée dans une autre salle de l'exposition, et qui est donc ce tableau carré noir qui est.
Alors là, du coup, on va demander à Emmanuel de décrire le tableau de Nicolas.
Bah, avec plaisir. Alors. Je pense qu'il fait 80 sur 80, quelque chose.
Il fait
50. Bah, je fais juste en dessous, en contre-plongée. Je vois pas bien.
Ils sont très grands.
Et ils sont très grands là où je suis. Alors c'est une. Alors je vais décrire les éléments constitutifs du tableau et pas forcément ce qu'il donne à voir en fin de compte. Donc on a une toile, un motif Vichy noir et blanc. Tendu sur un châssis, recouvert de, on va dire, de deux formes, une marge blanche, alors irrégulière, on comprendra pourquoi après, et en son centre également un carré noir, lui aussi irrégulier. Alors je le dis carré, mais en fait il est trop irrégulier pour être un carré, mais c'est la meilleure façon de le décrire. Et me semble-t-il, avec la manière expirée qui le caractérise, il a suivi les aléas de la tension du tissu Vichy pour tracer ces différentes figures. Donc un carré noir sur fond blanc. J'imagine à l'acrylique.
Mmh. Voilà. Intéressant.
Non, mais ça, factuellement, c'est ça décrit. Après, quand on dit un carré noir sur fond blanc, c'est évidemment une convention avec laquelle je joue. Si on est dans la description de la fabrication de l'objet, en fait, c'est un carré noir qui est donc peint effectivement sur ce tissu Vichy qui sert de guide au dessin des figures que je peins, mais qui, en fait, n'est pas sur fond blanc, dans le sens où la forme noire n'est pas peinte sur un fond blanc.
J'ai dit marge.
Oui, mais marge est évidemment plus juste, c'est-à-dire que le blanc est une contre-forme, puisque en fait, les couches de noir et de blanc sont au même niveau, si bien qu'en fait, je peins des monochromes bicolores.
C'est bien comme conclusion de la première étape. Peut-être Benjamin, tu peux nous parler de ton objet, enfin nous dire de quel objet il s'agit.
L'objet dont il est question, c'est deux livrets, deux archives de l'exposition précédente qui concernent le travail de Monsieur Canson et de Monsieur Devedec.
Et alors, est-ce que tu peux transmettre ces deux livrets à Nicolas qui va essayer de décrire ce qu'il a sous les yeux?
Alors, ce que j'ai sous les yeux, c'est des tirages, des impressions au format A4 qui ont été collés ensemble de manière à faire un format A3. Ils sont dans le coin en haut à gauche, reliés par une sorte de d'œillet en plastique noir. Ce sont des tirages de d'impression numérique en noir et blanc et en couleur qui présentent un certain nombre d'images dont pour certaines je reconnais des images qui sont présentes dans l'exposition. Peut-être devrais-je reconnaître pour l'ensemble, je sais pas, ouais, certainement.
Il faut dire que là, tu es en train de feuilleter les pages.
Oui, je feuilleté, je découvre l'objet en question. Et mais je reconnais effectivement des choses qui sont autour de moi accrochées dans l'exposition. Et donc ça c'est pour le premier, la description du premier, premier petit livre. Le second est fait de la même manière, constitué de pages à quatre scotchées en deux parties. Cette fois-ci, il y a deux œillets en plastique noir, le même genre, mais qui sont présents sur le côté gauche du petit livre. Et là, par contre, on découvre un texte qui est, mais ça, moi, je le découvre pas totalement, un texte qui est aussi diffusé de manière sonore dans l'exposition. Et qui constitue une des pièces de l'exposition. Ça, j'ai bien décrit.
C'est exactement ça. Alors pourquoi tu as choisi ça?
L'idée avec, avec Debedek et Canson, c'était de se poser la question de savoir comment on pouvait archiver, en fait, archiver une exposition, la documenter et la donner à voir sur un format papier. Et un format digital aussi. Là, en l'occurrence, il n'y a que le format papier qui est présent. Et de prendre en compte le fait qu'il y avait une perte qui s'exerçait dans la communication d'un événement et l'événement lui-même. Et quitte à avoir une perte, autant jouer jusqu'au bout avec les contraintes de reproduction et d'archivage de cet événement. Et donc de travailler avec en fait des outils très communs, c'est-à-dire un scanner et une photocopieuse standard, qui sont là pour le coup une Hewlett-Packard PhotoSmart 200. Et donc de pousser le vice jusqu'au bout et assumer le fait qu'il y a effectivement une perte entre l'exposition en elle-même et sa documentation. Ces deux objets en fait sont les matrices à photocopier pour documenter et diffuser des traces de l'exposition. Leur protocole de reproduction, vu que chaque photocopie sert à obtenir en fait un numéro 2, un numéro 3 et un numéro 4 de l'édition en elle-même, fait qu'une perte s'exerce dans la reproduction de l'objet et donc rend à la fois singulier et de moins en moins appréhendable la diffusion et la reproduction et la trace de l'exposition.
Donc chaque catalogue, c'est une série de pièces uniques en fait.
Exactement.
Peut-être on peut directement enchaîner par l'un des deux concernés de cette édition, qui est Damien.
Ouais.
Et enchaîner par ton objet.
Ah oui, ouais.
Juste le pointer du doigt et le confier à...
Je préfère.
Tu peux pas le confier.
Non, je préfère le laisser au milieu de la table, personne n'y touche, en fait.
C'est très délicat, ouais.
Ouais.
Alors, tu viens me poser au milieu de la table sur une pile de serviettes en papier.
Ouais.
Et peut-être on peut demander à Benjamin de dire ce que tu viens de poser sur une pile de serviettes en papier.
Alors, très simplement, sur cette pile de serviettes en papier, c'est un œuf qui a été posé avec énormément de délicatesse, ce qui me laisse à penser que c'est un très vieil œuf, peut-être.
Ou un œuf cru.
Ou un œuf cru.
Ou un très vieil œuf cru.
Ou un très vieil œuf cru. Les Chinois en sont friands.
C'est vrai?
Oui, oui. Alors, je ne sais pas quelle symbolique accorde Damien à cet objet, à cet œuf. Je vais le laisser parler pour peut-être nous dire ce qu'il contient ou à quoi il est rattaché.
Il est assez pâle, non?
Il est très pâle pour un œuf.
Ouais, bah, j'accorde pas trop de symbolique, mais c'est vrai que je l'ai acheté en septembre 2014. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être y faire attention. Parce que... enfin, on m'a dit la semaine dernière, en voyant des œufs qui étaient au bord de ma fenêtre, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Et je me suis dit, c'était en septembre, et on m'a dit, ah, fais attention, faut pas les toucher, parce que si tu les ouvres, tu vas être dégoûté des œufs pendant au moins 2 ans. Tellement l'odeur est horrible, quoi, elle nous abonde. Et du coup, je me suis souvenu du vernissage où j'étais un peu malade la semaine dernière, il y avait ces œufs durs qui étaient distribués aux visiteurs et bon, mais...
l'odeur était déjà dérangeante quoi, mais alors je me suis dit tiens, pour un objet à ramener en contexte radiophonique, je pense que c'est, enfin il est pas, voilà, il est pas, il est facile à décrire comme une...
C'est un objet potentiel quoi.
On peut, il est pourri, ouais.
On se figure assez facilement ce qui pourrait se passer si
un vieil œuf.
Voilà. Mais c'est vrai que serait... radiophoniquement, pour un auditeur, ça n'a aucun intérêt. Mais pour nous, par contre, c'est pas.
Voilà, c'est... Je pense qu'on a tous des expériences d'odeur d'œuf pourri, non?
Bah, moi, je crois pas, je me souviens pas, ouais. En tout cas.
En même temps, ni nous, ni notre auditeur, on va s'amuser à casser l'œuf, à moins que je m'avance trop pour le dire, mais c'était une provocation à Damien, mais faite à Damien. Disons que. On peut s'en passer et je pense que tout ce qu'il a raconté suffit à raconter voilà, les potentialités de l'affaire.
C'est comme une bombe qui explose pas, il a un potentiel.
C'est une épée de Damoclès.
Ouais.
Merci Damien.
Merci Damien.
Alors, peut-être Maëla, tu peux mettre à côté de l'autre ton objet qui est qui est assez étrangement similaire. Et Damien, à toi l'honneur de dire ce que t'as sous les yeux.
Je précise que c'est pas une concertation en amont du tout.
Ouais, c'est la magie de cette idée.
Je sens qu'il est légèrement plus petit, mais il a l'air beaucoup plus robuste, donc c'est un œuf également. Enfin, il a la forme d'un œuf.
Je pensais qu'à manger.
Et moi, ce qui est assez marrant, c'est que je me dis, quelle est la différence entre ces deux? Est-ce que la différence notable, on va en parler, entre ces deux œufs, a quelque chose d'équivalent entre la différence
oui,
entre les deux carrés?
Oui, tout à fait.
Enfin, ou nos carrés, je
sais pas. Ouais, une manière de
plus que deux, d'ailleurs.
Et un contenant, quoi.
Oui.
Ou la manière de décrire un œuf, une peinture qui, finalement, est assez limitée, mais on peut décrire une peinture très bien, même si non. Elle est pourrie... L'auditeur le saura pas, quoi.
Même si elle date de septembre 2014.
Quoi. Surtout si elle est pourrie de l'intérieur.
Mais alors, mon œuf à moi, il m'a été confié par Corentin, qui pouvait pas être là ce soir, donc il m'a confié son objet. Il a choisi un œuf, comme quoi vous êtes fait pour travailler ensemble.
Et il a une différence notable. Tu peux dire pourquoi cet objet, peut-être te faire la parole.
Eh bien, cet objet est différent de celui de Damien, puisqu'il est en terre.
Ah.
Ce n'est pas un vrai œuf, et donc c'est une partie d'une œuvre d'un artiste qui est décédé à la fin des années 90, voilà. Qui s'appelait Jean-Pierre Delvecq, qui est un artiste finistérien dont on a réalisé la rétrospective d'ailleurs avec Damien et Corentin en 2012 à Rennes.
Okay. Voilà, peut-être rajouter que dans ces sculptures-là, il y a toujours des architectures et beaucoup d'œufs, et dans chacun de ces œufs, vraisemblablement, il y a des objets.
Oui.
Il faut évidemment briser ces sculptures pour constater quel objet peut y avoir dedans.
Donc là, il est censé y avoir un truc de...
Bah, peut-être rien, comme peut-être cet œuf n'est pas pourri, quoi, mais du coup, il n'y a pas...
Et peut-être qu'il l'a acheté la semaine dernière et...
Il n'est pas là. Mais ouais, enfin, on a déjà trouvé un œuf cassé de Jean-Pierre Delbecq, il y avait une fève... La Vierge Marie, je crois.
Oui, exactement. À l'intérieur.
C'est quand même des objets.
Parlons d'objets.
C'est-à-dire qu'en secouant certains œufs de Jean-Pierre Delvecq, on entend voilà, qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc il y a un rapport extrêmement organique et particulier aux figures qui pouvaient réaliser une sculpture, puisqu'il réalisait donc des œufs, des baigneurs qui avaient des formes et des positions assez étranges qui ressemblaient à des enfants morts un peu, je trouve. Et en fait, il plongeait ses baigneurs dans... Donc c'était réalisé en terre non cuite, et il plongeait ses baigneurs dans des aquariums qu'il laissait fondre. C'était un travail de performance qu'il a réalisé notamment au Centre d'Art Passerelle à la fin des années 80, je crois, si ma mémoire est bonne.
Donc ça nous fait deux œufs de peinture.
Deux carrés.
Et un contenant. On parle donc d'exposition.
Deux tableaux, si je peux me permettre.
Oui, pardon.
Je t'en prie.
Tu fais bien, tu permets.
C'est pas une marmite, c'est une référence.
Moi, ça me gêne, pas quand on dit une peinture.
Non, moi non plus.
Il y a de la peinture dessus, quand même. Un peu. Et on arrive à un livre.
L'Égypte gourmande.
C'est Romain qui.
Non, mais c'est l'Égypte face à face.
Peut-être, Karl, tu peux décrire ça.
Ok. Donc, c'est un, effectivement un livre.
Quel format ?
Assez ancien. Qui doit faire une vingtaine de centimètres par 30. Et qui est protégé par un papier qui sert à protéger les livres qu'on trouve souvent dans les vieilles brocantes. Des choses comme ça. Donc ça semble un peu être à l'épreuve du temps. Là. Parce que le papier est très abîmé, mais le livre en dessous a l'air en très bon état. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on l'ouvre, on voit des petites miettes de tabac dedans, ainsi qu'un petit, une sorte de petit billet sur lequel il est écrit en latin « Ex libris, va petit libellé, et suis ton destin, fais le soir joyeux et gai le matin ». C'est signé par membres de la guilde du livre. Voilà, c'est assez étonnant, un petit objet. Et je pense que si le livre est là ce soir, il plaît à Romain, c'est notamment pour ce billet, mais aussi parce que les textes sont signés par Tristan Jara et Étienne Sved. Je ne sais pas si c'est les textes aussi ou les photos qui sont.
Il s'appelle comment ce livre ?
L'Égypte face à face.
Et sur la couverture, il y a.
Il y a une sorte de visage, un visage de pharaon, ainsi que celui de pharaon, type sculpture bas-relief ancienne, et derrière un visage de femme qui vient se superposer au visage du pharaon.
Alors tu peux l'ouvrir par exemple une page au hasard pour raconter au milieu ce qui se passe.
Oh.
Alors après les vignettes de pain et le petit billet, je trouve un mouchoir avec un peu sale dedans. Je décrirai pas ce mouchoir.
Sans lumière noire.
Mais il y a un visage sous le mouchoir. C'est un homme un peu inquiétant. Et un texte en dessous, je peux peut-être lire. À travers la gamme des sensations éprouvées, des sensations affichées, douleur, tendresse, souffrance ou mépris, les yeux savent, mieux encore que la bouche, au plus haut de la joie spirituelle, exprimer l'extase, tandis que la terreur, incertaine et qui perdure dans le chairement de l'ordre animal, fait reculer le corps jusqu'à la lisière du cri. La représentation subitement incarnée de la mort s'imprime alors dans le regard et tout écran est supprimé entre la vie et le vide. Ce sursaut intérieur de présence débordée. Voilà. Je pense que c'est le texte de Tristan de Sarah, probablement.
C'est trop marrant, tu peux dire pourquoi tu as ramené ça ?
C'est très bruxellois, mais on va essayer de situer un peu aussi les circonstances de l'émission. Sans être l'office du tourisme. Le syndicat d'initiative locale, il y a ce qu'on appelle le marché du jeu de balle à Bruxelles, et il s'avère qu'on y trouve beaucoup de choses. Des choses sans intérêt, des choses avec de l'intérêt, des choses avec l'intérêt que les gens leur portent. Et je suis tombé sur ce livre et j'ai été assez frappé en fait par le principe qui fait que même si on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, en fait, ça fait cohabiter. Des photographies, donc, comme disait Karl d'Étienne Sven, et des textes de qui sont relativement corsés aussi. Et en gros, il y a ce rapport à la double page qui fait cohabiter des images d'archives de type archéologique de l'art égyptien. Donc, plutôt des bas-reliefs. Certaines sculptures, mais principalement des bas-reliefs, qui représentent en fait à l'époque des pharaons la vie sociale en fait. Mais on s'en rend d'autant plus compte qu'en fait sur la page de droite on a vraiment une photo de l'époque qui représente en fait des Égyptiens dans les années 50-60 effectuant les mêmes rites ou effectuant la même action ou dans une situation comparable. Moi, ce qui m'a vraiment marqué sur cet objet, qui est un bouquin, c'est aussi déjà la qualité du texte de Zara, qui n'est pas nécessaire de mettre en perspective, et puis à la fois le côté aussi post-colonial que ça peut représenter en termes d'héritage, et, voilà, sachant que c'est des questions brûlantes. Quoi. Et du coup, sans rentrer dans un sujet qui est sans fond, ou alors avec trop de fond, je n'ai pas besoin de le dire, mais. Je trouvais que c'est un objet très, très particulier, puis surtout, voilà, j'avais envie, pourquoi pas, que ça vienne intervenir dans cette soirée. Voilà.
Ok. Bah, il nous reste un objet encore avant d'avoir fait le tour de la table, si je ne me trompe pas. C'est l'objet de Yvette. Alors, peut-être que tu peux nous le pointer du doigt et peut-être qu'on peut charger Romain de décrire.
Romain, j'ai emporté une copine à moi, enfin, c'est pas la copine, parce que ça, mais j'ai emporté, c'est sa tête, enfin, sa coiffure. Okay. Voilà.
Romain, tu peux peut-être nous la décrire.
Romain, c'est la coiffure d'une femme. Juste la coiffure.
La coiffure.
C'est la coiffure l'objet.
La coiffure. Oui.
Alors je dirais il s'agit de dreadlocks. J'ai peut-être prononcé très mal, mais voilà, j'ai assez mal passé pour parler de cet art-là.
Mais concrètement en termes de dimension, par exemple, parce que là on parlait de dimension.
Ah, en fait, une dimension. Alors ça peut aller jusqu'à 90. Ah non, j'exagère.
90.
70 cm. Voilà. Mais en fait, je trouve ça assez dur de parler juste d'une coiffure. En fait. Je sais pas comment. Après, hier, on aura aussi sa manière de me corriger.
Non, c'est la forme plutôt.
La forme.
Oui, la forme.
La forme de
la coiffure. La forme de la coiffure, quoi.
Tu veux développer alors?
Oui, enfin, est-ce que ça peut aller dans toutes les directions et que c'est pas toujours par là, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut aller par là, c'est ça ce que j'ai un peu...
Ça s'adapte,
tentaculaire.
C'est un peu rhizome comme ça.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que les dreads ne pendent pas tout droit, elles sont un peu attachées.
Oui, voilà, c'est ça qui fait d'être... Enfin, c'est aussi très sculptural.
Ah. Ok. On a fait le tour des objets.
Après le fétichisme, on passe à quoi, là?
Alors maintenant, on passe à la pause musicale et ensuite, on est là dans 4 minutes 22.
Pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Picasso never got called an asshole, not like you. All right. fuck me, not obnoxious. Be not bell-bottom, bummer, or asshole. Remember the story of Pablo Picasso. He could walk down the street and girls could not resist the stare. Pablo Picasso was never called an asshole. Alright, this is it. Well, some people try to pick up girls and they get called an asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called.
Vous êtes toujours sur du radio. On vient de faire le tour d'un paquet d'objets dans le chemin de table et maintenant c'est le moment d'essayer d'imaginer ou de comprendre pourquoi ils sont tous là réunis, dire qu'il y a un sens à tout ça. Et je crois qu'Emmanuel, tu avais une première hypothèse à nous soumettre.
Ben, c'est pas une hypothèse, c'est que je laisserais Maëla, par exemple, dire finalement pourquoi on est là. Les objets, ils sont là parce qu'on est là.
Est-ce que c'est dans ce sens-là ?
Ouais, je crois. Et juste, quand on écoutait Modern Lovers, je me faisais la réflexion suivante, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien compris qu'il y a des objets qui racontent des histoires et il y a des objets qui n'en racontent pas. Et dans ce qu'on a, les conversations qu'on a eues là, on s'est rendu compte que c'était les tableaux qui finalement résistaient à l'histoire, et même radiophoniquement, encore une fois. Et ça me plaisait assez en fait, cette expérience-là, malgré la parole et la description, le silence de la peinture perdurait au micro. Voilà.
Est-ce que vous êtes tous d'accord qu'il y a eu un silence général de la peinture ? Par rapport aux œufs, est-ce qu'il n'y a pas eu un silence des œufs en même temps ?
Silence des œufs.
Silence des œufs, toi, t'es d'accord ?
Bon, on n'est pas en présence des auteurs des œufs, donc.
Non, c'est vrai.
C'est pas évident.
Non, mais est-ce que. Je pense que ce que veut dire Emmanuel, et moi je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement on peut parler de plein de trucs, des œufs, des tas d'objets qui nous entourent, qu'on a amenés là pour le jeu de l'émission, mais on est tous tout le temps entourés d'objets, et c'est vrai que la peinture a associé de. Quand même assez spécifique. En tout cas, je pense que, et c'est ce qu'on partage Emmanuel et moi, c'est pas forcément le cas de toutes les peintures et peut-être pas de tous les peintres, mais en tout cas, ce qu'on partage, c'est aussi quand même l'idée que la peinture est avant tout une expérience. C'est une expérience du spectateur, c'est notre expérience à nous d'artistes, peintres, mais c'est notre expérience aussi tout le temps de spectateurs, des peintures, des nôtres bien sûr, mais celles des autres artistes aussi, qui est quand même assez irréductible, ou en tout cas très spécifique à ce que c'est. Un œuf, on a tous l'expérience de ce que c'est, même s'il est pourri, même si on ne va pas le casser. Une peinture, on peut, comme on l'a fait tout à l'heure, la décrire, enfin, décrire ses contours, ses aspects formels. En même temps, on sait quand même tous, plus ou moins, on a tous fait l'expérience que c'est quelque chose qui se voit et qui se vit. Peut-être comme la musique, enfin, c'est pas quelque chose de très. Enfin, d'absolument irréductible à une forme d'art qui serait contre toutes les autres, beaucoup plus spécifique. Mais Mais en tout cas, c'est vrai que malgré le fait que ce soit un objet, pour revenir au début de l'émission, c'est quand même un objet un peu particulier.
Je suis tout à fait d'accord avec ça, et j'ajoute que enfin, je reprends mon idée de départ du monde sans objet. Je crois qu'on a mis à jour quelque chose qui me semble important, qui est effectivement un tableau est un objet qu'on peut mettre dans une voiture à Paris et emmener à Bruxelles, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait aujourd'hui, et l'accrocher au mur. Mais il est d'une certaine façon, il n'est pas, on ne peut pas l'enfermer à cet endroit-là. Et que effectivement, l'expérience qu'un tableau peut proposer, c'est peut-être celle de tous les objets ou de toutes les images. Enfin, c'est quelque chose que, face au tableau de Nicolas, on peut, à mon avis, imaginer très facilement.
Alors moi, je me pose la question parce qu'il y a un paquet d'artistes autour de cette table. Dont, par exemple, toi, Benjamin, qui a ramené le... C'est pas forcément le meilleur exemple, parce que c'est un objet qu'on pourrait qualifier d'art aussi, mais c'est un grand designer, etc.
C'est une blague.
C'est quoi ton expérience? Vous parlez depuis tout à l'heure de la spécificité des espèces de caractères irréductibles de l'expérience de la peinture. Et il y a toutes d'autres sortes d'objets sur cette table. Est-ce qu'on pourrait parler d'une expérience tout aussi irréductible pour une marmite Le Creuset ou pour les œufs qui sont là ou les cheveux?
Là, je pense qu'il... Sans parler dans ce qui me concerne, sans parler d'expérience, etc., c'était vraiment de ramener cette marmite Le Creuset. C'était aussi d'un côté pour réagir à la fois sans vouloir essayer de dire que d'essayer de prévoir ce qu'aurait pu ramener Emmanuel, Nicolas, etc. Mais évidemment, dans le montage de cette exposition, la question de l'objet était vraiment présente, et c'est aussi tous les problèmes que j'ai pu avoir dans le processus de ce moment de radio qui, justement, commençait par la présentation d'un objet que je trouvais aussi assez contradictoire en ce qui me concerne vis-à-vis de ce qu'on a essayé de proposer, mais complètement illustratif aussi de ce qu'on a travaillé, etc. C'est que, dans la manière dont Nicolas et Emmanuel ont pu discuter de ce rapport à l'expérience, de ce rapport à l'objet, à la peinture, etc. Et dans les peintures, tableaux qu'ils ont présentés. En tout cas, ce côté « je marche sur des œufs », tu vois. C'est... La bonne blague. Je pense qu'on est autour de la table tous à avoir, en tout cas tous, ou je l'espère en tout cas, à avoir un rapport assez ou très compliqué à l'objet, à la production d'objets, à la présentation d'objets, à la manière dont un objet évolue dans le temps, à la manière dont un objet se présente, à la manière dont un objet se vend, etc. Et que oui, cette question du monde sans objet, cette question de la résistance à l'objet, la manière dont on le raconte, la manière dont ça sera diffusé via des radios, etc. Finalement, autant de choses dans lesquelles on se confronte aussi dans une certaine idée et dans un certain accord de d'invitation et de, en tout cas, de réflexion autour de cette pérennité, cette production d'objets, ces contenants, ces contenus, etc., toutes ces choses un peu en boucle comme ça, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont très bien, sans justifier leur intervention, en tout cas, ils ont très bien parlé, et on en est vraiment honoré justement à ce niveau-là, parce que c'est qu'on puisse partir de cette présentation d'objets que je trouve évidemment beaucoup trop fétichiste, évidemment beaucoup trop... longue et pesante autour de ces objets présentés, je trouve que toutes ces fuites sont quand même beaucoup plus intéressantes.
La question de présenter du coup dans cette émission un archétype de l'histoire du design aussi, pose aussi ce rapport à la question de l'auteur, dans ce rapport entre le regard, l'usage et la production, où situe la production, où situe le regard, où situe l'autorité et enfin, toutes les ambiguïtés que ça peut avoir. Et, du coup, c'est vrai que sans remuer des vieux débats sur l'intégration du design en art, enfin, c'est intéressant de voir comment, voilà, en fait, une chose aussi assez personnelle que peut être un objet pour faire la cuisine, quoi, une casserole, si j'ose dire, voilà, peut aussi à un moment avoir beaucoup de qualités qui dépassent celles de simplement servir à faire la cuisine. Donc,
il est question de spéculation aussi.
Mais on parle aussi du coup de la question de l'auteur, enfin, quel est l'auteur dans ce cas-là, parce que quelqu'un qui achète une Le Creuset dans les années 80, ne se pose pas la question de la mama, ne se pose pas la question de.
On va faire le débat.
Tout ça, et donc voilà, il y a un moment.
On fait le débat vraiment ?
Non, pas forcément. Non.
Si, on fait le débat. C'est beau être très beau, c'est jaune, ça fait 22 cm, c'est le truc.
C'est une casserole.
Ça sert à faire à manger.
Exactement, voilà. C'est une casserole.
Et c'est un super, autre. C'est bien fait, ça nous plaît, parce que c'est signé, parce que ça marche bien, aucun problème. Sauf que ce qui compte, c'est ce qu'on fait à manger dedans.
Exactement.
Tu vois, moi, je n'ai pas amené un châssis en bois. J'ai pas amené un morceau de toile que j'ai tendu, j'ai même pas tellement amené la peinture que j'ai mis dessus. C'est pas ça qui est important. Et c'est ce qu'on essaye de dire, je pense. Je pense que pour le coup, on est d'accord avec Emmanuel, même si nous, d'ailleurs, nos deux propositions sont très différentes. On ne peint pas pareil, on ne pense pas pareil. Mais c'est ça le sujet avec cette question des objets. C'est à quoi ça sert ? Mmh. Là, en l'occurrence, ça sert à faire à manger, ça sert à se nourrir, ça sert éventuellement à bien faire à manger. Parce que c'est vrai que ces trucs, le Creuset, moi j'en ai chez moi, j'en fais l'expérience. C'est super bien, c'est mieux que les autres trucs. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Mmh. Et c'est ça l'expérience. Enfin, évidemment, on peut se gargariser, on peut faire les malins en disant la singularité, la spécificité de la peinture, un truc. C'est pas la peinture pour la peinture, on s'en fout comme l'objet pour l'objet, la casserole pour la casserole. C'est pareil, c'est du formalisme de faire ça. C'est simplement qu'est-ce que ça nous fait à l'esprit, aux yeux, au corps, à l'estomac. Une fois qu'on a utilisé ces choses-là.
Donc, dans tous les cas, il faut les utiliser, ça s'adresse à...
Moi, je pense, ouais.
Il y a un usage.
C'est mon point de vue.
C'est pour ça qu'on a de la peinture à la maison, d'ailleurs. On renouvelle une expérience...
C'est le débat. Hein.
Mm-hmm. Chaque jour, aussi. Non, mais enfin, moi, je vois pas voilà, les peintures que je possède et qui sont sur... Mes murs, en général, c'est comme on disait, une expérience qui est renouvelée à chaque fois que je les regarde, en fait. Ouais. C'est ça qui m'intéresse.
Et alors, Damien, par rapport à ces expériences, vous parlez de l'expérience de ton œuf ?
J'ai pas envie de parler de l'œuf. Non, mais moi, pour revenir sur cette histoire de résistance du tableau... j'avoue que ça me fâche pas parce que j'y crois aussi, mais la croyance au tableau et en effet
le... Non mais le tableau c'est la casserole.
Non mais c'est ce dont on parlait avant. Et du coup je pense plus aux objets qui sont exposés dans l'espace. Et donc il y avait en gros peut-être les deux tableaux, le tableau de Nicolas et le tableau d'Emmanuel. Les tableaux peintures que j'ai fait avec Corentin et les objets que j'ai amenés pour être exposés tels quels et qui pour moi remplissent quelque part le rôle que peut avoir le spectateur. Ils remplissent le même rôle que les peintures où c'est les objets qui sont le puzzle et une sorte de céramique assez sans histoire et sans anecdote derrière. Et justement moi j'aimerais bien savoir auprès de Romain, Maëla et Ben, la manipulation de ces trois types d'objets. Peut-être pas, les éditions c'est plus délicat, mais parce qu'il y a la documentation directement liée à l'expo, les dessins de
Mais vraiment, ces trois types d'objets-là, pour moi, c'est problématique, quand même.
Ah, c'est-à-dire problématique.
Qu'est-ce que tu as appelé trois types d'objets, en fait? J'ai pas entendu.
Je parlais vraiment de... Bon, le puzzle avait plus ou moins un rôle, mais la céramique a posé une espèce d'absence de problème où il n'y avait pas de prise en compte de cet objet-là parce qu'il était... je sais pas, il n'a pas été rangé dans les œuvres apportées, quoi.
Parce qu'il n'y a pas eu d'intervention, tu veux dire?
Non, il était pas considéré, il n'avait pas d'histoire, il n'avait pas d'auteur.
Si, il avait une histoire, parce que tu l'as quand même récupéré.
Ouais, mais elle n'est pas très importante.
Elle n'est pas très importante.
Et c'est un objet vraiment...
Ça dépend de la valeur que tu...
un goût avec lui. Mais...
Tu parles de cette céramique avec un visage peint dedans. Je sais pas si...
Oui, c'est ça, la même chose.
Ouais. Si, c'est une des œuvres de...
Ouais. Un saladier avec...
C'est une des œuvres de l'exposition.
Ça représente un problème, mais...
Non, non, ce qui a posé le problème, si je peux me permettre, c'était l'intégration de la volonté que tu avais que cet objet soit présent à nous, notre script, qui est aussi notre script, qui fait qu'on a quatre événements enfin, liés à une seule exposition, qui quand même cherche à faire cohabiter enfin, dans une relative bonne intelligence enfin, tous ces événements, plus les gens à qui on propose aussi de documenter.
Oui, mais cet objet-là, je l'ai pris comme Nicolas et Emmanuel ont apporté une peinture sous le bras. Je l'ai emmené à Bruxelles avec moi en voulant qu'il soit dans l'expo.
Oui, t'en as amené 20 sous le bras.
Non. Non, il y avait deux objets que je voulais absolument présenter.
Qui étaient donc cette...
La céramique et le puzzle.
Et le puzzle.
Et le puzzle.
Ah, mais t'as quand même les caprices élargis, donc après.
Ouais, non, mais je sais pas, je parle pas de mes caprices, je parle juste de la. C'est la manière de les manipuler après.
Mais non, mais c'est-à-dire que nous, en tant que commissaire, si je peux nous appeler comme ça, on a aussi eu cette volonté dans cette exposition de faire cohabiter une certaine stratification des objets, si on peut les rassembler sous ces termes-là, c'est-à-dire des œuvres... disons, avec une intervention in situ, de la documentation qui était périphérique à ces objets-là, et peut-être après tout ce discours qui serait créé par les objets qu'on rassemblerait au sein d'un même espace. Mmh. Et après, pourquoi cet objet-là a posé
de
problème?
Je vois de manipulation des objets.
Je parle de cette céramique avec ce portrait de femme peint à l'intérieur, qui est d'ailleurs pas présent et que certaines personnes ce soir n'ont pas encore vu, mais il a eu sa place, je veux dire, il a été utilisé. Là, pour le coup, il a eu presque la meilleure place, c'est celle que les gens ont vue au bar, quoi. C'était celle de recevoir quel est le nom pour cette chose?
Les capsules de bière.
Les capsules de bière, voilà.
Oui, vous lui avez donné
quelque part. Il y avait bon, il n'a pas été non plus enterré.
Non, mais moi
je pense que ma peinture serve à recevoir les capsules de bière.
Ils ont aussi peint les tarifs des consommations du bar.
Oui. Ah oui, mais ça c'est le problème.
Non, mais c'est leur problème. C'est justement leur problème.
C'est pour ça qu'un tableau. Qu'est-ce que tu fais avec un tableau? Tu l'accroches sur un mur.
Voilà. Mais justement, c'est un peu ce que je voulais pointer, c'est-à-dire de vous demander d'amener un tableau, et donc il y a cette histoire de croyance au tableau, de résistance du tableau, qui est
le poteau rose.
C'est un truc un peu indépassable, alors que j'ai dit que j'amenais quelques sculptures, il se trouve que j'ai amené un objet trouvé.
Bien sûr.
Mais cet objet trouvé a fait partie de l'exposition de manière intégrante, puisque de toute façon,
tout en essayant de tenir le format de l'émission de radio, moi je dirais que de toute façon, tu avais déjà au départ proposé un format fonctionnel qui était celui de mettre, sans emmerder les auditeurs, les boîtes d'allumettes. Quoi.
Bah, pourquoi pas? Il fallait qu'ils soient dans l'expo.
Du projet de.
Et ça restait un contenant.
De Yad Verhoeven, qui était quand même, de toute façon, dans une application de l'objet à servir. C'était pas non plus quelque chose qui était présenté au mur, comme dirait Nicolas, la matière d'un tableau. Donc c'était quelque chose aussi qui pouvait laisser à discrétion de... Voilà.
Oui, mais moi je veux pas rentrer dans le débat, qu'est-ce que vous en avez fait, quoi vous avez fait.
C'est juste
non, on l'a fait.
Je veux dire, juste, il y a le rapport de, qu'on parle de tableau, et de... il y a le tableau de Bourville qui est très différent aussi, qui est... On ne peut pas trop considérer isolément non plus, enfin, il a très peu de résistance.
Je trouve qu'il y a, quand même des choses.
Je sais pas, il y a plusieurs choses en présence autour de nous. Quoi.
C'est marrant parce qu'il y a tout à l'heure une espèce de dialectique, même si on essaye de, un peu d'en sortir, entre ce qui serait l'objet d'art ou de la peinture et l'objet usuel, le fonctionnel, etc. Et quand on
c'est l'occasion peut-être de parler aussi un peu de l'IA, parce que parce qu'il est vraiment peut-être dans un nœud par rapport à ça, c'était aussi un peu
complètement
le départ du continue.
Non mais il y avait cette déjà l'idée du double qui est c'est assez étonnant comment par coïncidence il y a cette idée qu'elle a tout le temps entre la peinture rectangle avec un carré dedans, la peinture carrée avec un carré dedans, qui fonctionnent quand même comme des jumeaux, en plus ils sont les tableaux sont chacun sur une cheminée. Au-dessus d'une cheminée, il y a les deux œufs, un qui est un vrai œuf pourri, l'autre qui est un œuf en terre qui contient peut-être quelque chose. Il y a le livre sur l'Égypte avec les bas-reliefs et des sortes de doubles pris dans les années 60 en photo, qui sont pas vraiment des doubles, donc il y a quand même un espèce de motif récurrent. Et il y a l'idée de copie avec les brochures, le catalogue, là, qui se répète, mais qui n'est jamais exactement le même. Et dans tout ça, il y a les cheveux de hier qui arrivent. Je ne sais pas comment on peut les inclure là-dedans, peut-être qu'il y a un truc avec l'idée de double que tu amènes, je ne sais pas comment.
En tout cas, pour présenter un peu l'intervention d'hier dans l'exposition, il y a deux gros matériaux bas qui occupent effectivement, les deux pièces de l'espace d'exposition dans lequel on se trouve. Et pour dire les choses rapidement, on a proposé à Gert d'imaginer une forme fonctionnelle justement des romans de l'art qui était traditionnellement plus liée vraiment au mur et à l'exposition. Et à un moment, voilà, il y avait cette idée qu'on pourrait imaginer un mode actif de, et du coup de là est partie la discussion et on a parlé d'un club et donc il est arrivé vraiment il a créé un club et je sais pas si Gert tu veux exprimer là-dessus mais du coup il y a voilà on est vraiment aussi dans ce rapport à plein d'éléments qui sont liés à autant au mur que à l'objet et à la ligne qu'il peut y avoir entre l'usage et puis à un moment aussi l'œuvre comme quelque chose qui a, comme on en a parlé pour le tableau, sa fonctionnalité pour le regard. Et voilà comment nous on a aussi essayé de pousser un peu la collaboration jusqu'à une prise de risque collective qui consistait à dire why not, ou pourquoi pas, allez, on trouve une forme, on fait un bar quoi. Et voilà.
C'est aussi une manière de se poser la question de l'expérience de l'exposition, de l'expérience de l'œuvre, c'est-à-dire que finalement les vernissages ou les quatre vernissages qui ont lieu lors de cette exposition sont autant d'expériences qu'on peut faire de l'exposition au fur et à mesure, qu'on a voulu changeante et qui se manifestent sous des formes aussi différentes. C'est-à-dire que ce soir on a eu un vernissage en forme de concert. On peut le dire, fait par donc ce concert de Stings Total qui a été fait par deux peintres qui sont Emmanuel van der Meulen et Nicolas Chardon.
Deux musiciens.
Voilà, qui ont fait de la musique. On a eu un vernissage en forme de club privé qui activait en quelque sorte l'œuvre de Geert Verhoeven. Un vernissage plus classique mais qui a permis également de mettre en scène notamment l'objet dont on parlait qui a peut-être posé problème de par son statut de ready-made. Parlons
de l'expérience de l'œuvre, Dani.
Qui a quand même
il y a de tout dans cette expo. C'était simple pour moi d'amener cet objet dans cette expo.
Et finalement,
c'est pour ça que je l'ai amené. Parce que je me dis, tiens, c'est très simple de le mettre là. Parce que les conditions de l'expo le permettaient. Je pense permettaient à Nicolas et Emmanuel de faire ce show. Il y avait, enfin, je sais pas, il y a pas, moi je voulais pas que ce soit problématisé, au contraire. C'était le socle un peu idéal pour permettre ce genre de non-statut d'objet. Comme peut-être qu'il se retrouve là sur la table, mais
je
sais.
Enfin, c'est très, mais je pense c'est que finalement, bien, ça a été le cas, quoi.
Ouais, complètement.
In fine. Mais enfin voilà, je pense que c'est aussi quatre. Et donc on parlait, pour revenir à ça, de festival tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est la forme de cette exposition, je pense qu'elle s'apprend dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une date de début et une date de fin qui comporte effectivement quatre temps.
Quatre chapitres.
Oui, on peut parler de chapitres, on peut parler d'événements. Mais en tout cas, ce sont des moments où on invite le public à venir. Après, il peut venir évidemment entre les. Mais en tout cas, c'est chaque fois découvrir l'exposition sous un peut-être un regard différent. Ou
on change à chaque fois.
Mais voilà.
Et où on a essayé d'intercaler entre les artistes et notre rôle de commissaire aussi, des intervenants, pour produire en fait cette. Des charges qu'il peut y avoir dans la question de la médiation entre l'œuvre et son commentaire et donc voilà, il y a l'idée effectivement que autant dans le rapport qu'on a eu avec les artistes en leur proposant aussi des formes plus actives, réactivées voilà, de leur travail, que ce soit dans la manière qu'on a eu d'inviter les gens à réagir à ces formes-là pour reproduire une certaine forme de médiation à notre place. Il y a toujours eu une manière de pousser un peu le statut des objets auxquels on avait affaire, en fait. Que ce soit pour les artistes, comme pour les gens qu'on a invités pour produire de la documentation, sachant que toutes ces formes-là, en fait, habitent dans un même espace et que, voilà, il y a aussi là quelque chose qu'on laisse au public, c'est-à-dire la décision qu'on peut avoir sur.
Peut-être du coup ça sonne un peu la fin qui est de toute façon complètement arbitraire, comme tout un tas de trucs dont on a causé ici. Je ne sais pas si pour conclure ça, peut-être dire que c'était un mot de la fin, non ? Pas le mot de la fin.
Ah oui, il y a un mot de la fin.
Une petite
chanson. Le dernier mot.
Une petite chanson.
Quelqu'un veut décrire la tête que hier t'as fait quand je lui ai proposé le mot de la fin ?
Il était très heureux.
Je suis fatigué.
Voilà.
C'est un beau mot, ça, de la fin, fatigué. Quelqu'un d'autre voudrait rajouter une chose ?
Ouais, je peux pas m'empêcher de dire un mot en plus. Notre discussion m'a fait penser à Chardin. Je voulais quand même citer ce mot-là. C'est une peinture qui sent la cuisine et c'est bon.
C'est pas mal, ça. Et donc, on va finir sur une proposition musicale de Benjamin.
Six pack, I know it'll be okay. I get.
darkness or root of lead.
Six pack,
they say I'm fucking all time.
Six pack,
for the news don't waste our time.